Hollande est tout sauf un moderne, donc même dans que la modernité peut avoir de contestable. Donc il a un côté très, très traditionnel. Et donc toutes ces histoires dites d'innovation sociétale, c'est pas son truc. Donc il fait avec. Donc je ne le vois pas du tout emprunter une stratégie de dire « Bon, de toute façon, je peux rien faire sur les questions socio-économiques, donc je vais amuser la galerie avec, avec l'homoparentalité, etc. » Je crois qu'il ne prend pas très, très au sérieux ces sujets. Il est Oui, non, mais c'est pour ça que je dis à l'excès. C'est-à-dire qu'il a un côté... de la même façon, par exemple, il est totalement indifférent au défi écologique, au fond de lui-même. Ah ouais. C'est quelqu'un qui reste... moi, qui suis de culture marxiste, j'ai mis un temps à comprendre que c'était des questions sérieuses. Hein. Pour moi, très longtemps, c'était les petites fleurs, hein, les oiseaux, hein, les écolos. Mais j'ai quand même, comme Jean-Luc Mélenchon et quelques autres, compris depuis un certain temps que c'était des questions importantes. Lui, je crois qu'au fond de lui-même... n'a pas saisi cette importance. Il a ce côté très classique. Donc le problème n'est pas tellement qui nous distrait en quelque sorte de cette sorte. Non, le problème, me semble-t-il, c'est sa capacité à être Roosevelt plutôt que Queuille. Hein, puisque vous savez que il se... Et donc là, je crois que c'est le cœur du problème. Vous savez que, étonnamment... Il se réfère à Henri Queuille. Henri Queuille, vous voyez qui c'est, enfin, un personnage un peu oublié, le petit père Queuille, le PPQ, donc un personnage du monde radical de la 3e et 4e République, un recordman de la longévité ministérielle, je crois qu'il a été 22 ou 23 fois ministre, il a été président du Conseil, et il a laissé d'ailleurs une trace dans l'histoire, une réputation... pour le moins mitigé, alors que son bilan n'est alors que c'est un peu injuste, mais parce qu'aussi il a été, vous savez que la fameuse expression l'immobilisme dont feu politiquement Nicolas Sarkozy faisait un usage exagéré. Cette expression avait été importée dans le vocabulaire politique pour lui-même, et c'est René Pleven qui l'avait inventé lorsqu'il avait été président du Conseil en 48-49. Donc, et c'est un personnage à qui on doit des citations qui sont connues. La première, c'est « Il n'est aucun problème qu'une absence de solution ne puisse résoudre ». Donc ça, c'est Henri Queuille. Et une autre, alors, qui est contestée par certains de ses biographes, mais enfin, une autre, c'est la fameuse citation que vous connaissez, mais je pense que vous ne l'attribuez pas à Queuille, c'est la fameuse citation... très utilisé et pratiqué par Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui les entendent ou que les écoutent. Bon, ça, je savais que Chirac l'avait pris de Pasqua, il y avait Edgar Faure, mais ça remonte apparemment à Henri Queuille. Et d'ailleurs, quand je l'ai appris à François Hollande, il a ouvert ses yeux comme ça. Il a dit « Ah, c'est lui qui a trouvé ça ? Ça montre qu'il est très fort. » C'est un peu inquiétant quand même pour un homme qui est devenu président de la République. Alors, plaisanterie, ça, c'est son sens de l'humour qui l'emporte parfois sur une certaine prudence. Plaisanterie mise à part, il a une vraie admiration. Il m'a parlé pendant 20-25 minutes de cet Henri Queuille, parce que Henri Queuille a été sous-estimé. Henri Queuille était victime aussi de son physique. Hollande a beaucoup de complexes là-dessus. Vous savez, son côté mou, flamby, ça vient de ça, ça vient de son physique. Or, en réalité, il a des défauts, mais il est tout sauf mou. C'est quelqu'un de dur politiquement, c'est quelqu'un qui a une certaine volonté. Donc je pense que Hollande pourra prendre des décisions. Il sera courageux. Le problème, c'est quel type de courage? Et c'est là que se pose la question Roosevelt. C'est-à-dire que, me semble-t-il, pour être à la hauteur des événements et des problèmes soulevés par la crise d'un capitalisme financier qui est quand même très décadent et qui non seulement est injuste, ça on l'avait remarqué, mais qui devient de plus en plus inefficace et dangereux, eh bien il faut s'affronter à des logiques économiques puissantes et à des intérêts puissants. Il a nommé la finance comme adversaire, mais c'est du nominatif, hein. François Mitterrand nous avait fait le coup, hein, en 1981, les puissances d'argent, etc. Bon, dans un premier temps, d'ailleurs, il y a eu des nationalisations, il y a eu quelque chose. Mais bon, on ne peut pas dire que la guerre contre ces puissances dominantes a été de longue durée. Donc là, Hollande est pris dans le feu aussi de contradictions. entre un entourage très conformiste. Je pense que de ce point de vue-là, il est assez proche de l'establishment. Il y a un patron qui m'a dit un truc amusant. Il me dit, bon, lui, il voulait voter Sarkozy. Et puis, il dit, de toute façon, si c'est Hollande qui passe, c'est pas très grave. Je dis, pourquoi ça? Je dis, parce que même si Hollande ne s'entend pas bien avec l'establishment, l'establishment s'entendra avec Hollande. Il a l'air de dire, on saura y faire. Donc, la question est de savoir s'il pourra s'affronter à des intérêts. Parce que c'est ça la question. Or, il ne pourra s'affronter à des intérêts puissants que s'il bénéficie d'un rapport de force. Il y a une chose qui est certaine, c'est que François Hollande n'est pas un homme à passer en force. C'est un homme qui, là aussi c'est un signe de son réalisme, agit en fonction des fenêtres d'opportunité que la réalité lui ouvre. Ce qui est certain, c'est que sa capacité, et ça, ça sera le premier enjeu, à renégocier au moins partiellement avec un texte additif, alors, ça ne sera pas une renégociation complète du traité, mais sa capacité, disons, à réorienter au moins partiellement l'orientation économique de l'Union européenne est très liée au rapport de force. Là, affaiblissement d'Angela Merkel, avec les élections régionales qui ont eu lieu, les Grecs qui ont voté en majorité contre l'austérité. Alors on leur dit qu'il faut voter, mais enfin, c'est pas sûr qu'ils vont complètement se déjuger. Donc plus une évolution quand même du climat dans les superstructures européennes. Donc il a peut-être un rapport de force qui lui permet un peu plus d'audace. Hollande est à la fois un enfant de Jacques Delors. Enfin, en tout cas, Jacques Delors a été une des personnalités qu'il a accompagnées. Il est entouré, Jean-Pierre Jouyet, et un certain nombre de gens autour de lui qui restent dans cette foi européiste. Mais lui-même, dans la mesure où c'est tout sauf un doctrinaire, y compris sur ces questions, n'est pas enfermé dans un dogme. Et je lui ai évidemment posé ce genre de questions. Et ce qui m'a frappé, c'est, comme sur le libre-échange d'ailleurs, c'est qu'il saisit, il voit qu'il y a un problème, il ne se masque pas la face, et en même temps, il ne sait pas du tout comment il peut le résoudre. C'est-à-dire que je pense qu'il a mesuré l'épuisement du type de construction. C'est peut-être pas très rassurant de dire ça aujourd'hui. Il a mesuré le fait que le type de construction européenne auquel lui aussi a cru aujourd'hui, le modèle Maastricht, disons, est épuisé, ça marche pas, ça marche plus. Il voit le problème, mais il ne voit pas la solution. On sous-estime, bon, il a longtemps été sous-estimé, y compris par moi-même d'ailleurs, parce que comme un de mes défauts, c'est que j'ai peut-être parfois une approche un peu idéologique ou un peu au fond des choses, je me disais, ce pauvre garçon que je connais depuis Sciences Po et que j'ai vu quand même assez opportuniste, parce que moi, quand je l'ai connu, il était crypto-communiste, il était assez proche du Parti communiste. Il se trouve que dans les années 70, le Parti communiste était dominant. Oui, donc il est toujours un peu dans le mainstream. Bon, je l'ai vu, il est devenu mitterrandiste. Bon, très bien, il se trouve que c'était Mitterrand qui était président de la République, ça tombait bien. Enfin, c'est plutôt dans l'autre sens que ça s'est passé, évidemment. Et puis ensuite, il est devenu Delorsien, parce que, c'était Jacques Delors qui semblait, etc. Il est devenu Jospinien. Bon, donc il est assez fluctuant. Je me disais, ce garçon n'incarne rien, et donc je pensais qu'il n'avait pas d'épaisseur politique et qu'il pouvait rien incarner. Et donc je l'ai sous-estimé, comme bien d'autres. Mais maintenant, il faut arrêter. Il ne faut pas commettre toujours les mêmes erreurs. Il faut en changer. Donc maintenant, je le sous-estime plus. Sans essayer, je n'ai pas essayé de le surestimer non plus. Et donc je pense qu'il a une densité de caractère. Il a une force intérieure telle que... il n'est pas aussi sensible aux pressions et aux entourages qu'on peut se l'imaginer. Quand je parle d'influence, de rapports de force, je parle des rapports de force dans la société, des rapports de force internationaux. Et donc, c'est de cela dont il tiendra compte. D'accord. Et c'est cela qui peut être inquiétant, parce que si ces rapports de force ne lui permettent pas d'agir de façon audacieuse, il n'aura pas une prise de risque inutile. Une tête brûlée. C'est quelqu'un qui essaie de résoudre les problèmes. Ce qui est très intéressant, c'est à quel point il se voit comme un une sorte de mécanicien de la politique.
Ouais, ah bah c'est, ouais.
Quand je lui posais la question, ce qui est toujours une question intéressante, c'est quel est ton moteur profond ? Parce que vous savez, les gens, c'est quand même un métier de chien, essayer d'arriver jusqu'à l'Élysée. Donc il faut avoir un moteur solide. Et il y en a de plusieurs sortes. Il y a des gens, le moteur, c'est la conquête du pouvoir. Ce qui les excite, c'est la bataille. Bon. C'est par exemple le modèle Chirac. Une fois qu'ils ont le pouvoir, ils s'ennuient, ces gens-là. Parce que ce n'est pas ça qui les intéresse. Bon. C'est la bataille. Bon. Il y en a d'autres, c'est l'exercice du pouvoir, qui pensent qu'ils sont les meilleurs et que c'est eux qui vont résoudre les problèmes du pays. C'est le modèle Giscard. Bon. Il y a une troisième catégorie. Enfin, on peut mixer les catégories. Hein. Il y a une troisième catégorie. C'est des gens qui ont un compte à régler avec eux-mêmes, qui veulent montrer que c'est eux les plus forts. Vous avez deviné à qui je faisais allusion, donc je n'ai pas besoin de citer un nom. Bon. Et donc, je lui dis, toi, tu es dans quelle catégorie ? Alors, il a son petit sourire ironique, il dit, en tout cas, je peux te rassurer que j'ai aucun compte à régler avec moi-même. Et c'est vrai que c'est un garçon qui semble d'une certaine placidité, d'une certaine sérénité. Il n'est pas, de ce point de vue-là, à vouloir prouver quoi que ce soit. Je dis, bon, alors quoi, c'est la conquête ou l'exercice ? Il aurait dû me dire, oui, mais moi, c'est l'exercice, mais enfin, au moins con que Giscard. Bon. Mais il ne m'a même pas dit ça. Il m'a dit, bah, écoute, moi, mon métier, c'est d'être homme politique. Et à partir d'un certain niveau, bah, la perspective, c'est l'Élysée. Et donc, c'est le couronnement de ma carrière. Alors, réponse très décevante. Parce que là, et donc il m'a pas
moins,
fait.
Mais il
c'est franc. Au moins, il m'a pas fait un numéro sur le thème.
Bah oui,
moi, je veux. J'ai une vision pour la France, pour l'Europe, pour le monde, cette société occidentale. Non, non. Il a dit bon, bah, moi, je suis fait pour résoudre les problèmes. Et comme le petit Percueil, bon, bah, on me sous-estime, mais je ferai des trucs. Je crois pas que son discours de campagne est prédictif de façon très précise de sa politique. Mais sur ces questions d'intégration, qui ne sont pas que des questions sociétales, parce que me semble-t-il, là, c'est des questions d'aménagement du territoire, des questions, le prix du foncier, des questions de carte scolaire, enfin, donc c'est des questions qui sont plus larges. Comment dire ? Mon inquiétude n'est pas tellement qu'il cède à ce lobby multiculturaliste, dont l'influence a quand même reculé à gauche.
Oui,
elle existe, mais ouais, l'influence a quand même reculé. En tout cas, c'est plus une hégémonie. Donc, il peut y résister, d'autant plus que s'il prend en compte les équilibres dans l'ensemble de la société française, il y résistera encore plus. La Bastille, je ne sais pas qui était dans cette salle. Moi, je n'y étais pas parce que je faisais mes chroniques à rue 89, je vous ai raconté. Mes deux filles, qui ont une vingtaine d'années, et ma femme y sont allées, donc en mission. Et elles sont revenues. Alors, elles n'ont pas, enfin, en tout cas pour mes filles, là, évidemment, la référence que je peux avoir, puisque le 10 mai 81, elles n'étaient pas là, hein, par définition. Je ne suis pas si vieux. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'elles m'ont dit en revenant. Elles m'ont dit, ben, alors, je dis, alors, c'était quoi l'ambiance, etc. Eh ben, du bas, c'était une teuf. C'était une teuf. Les jeunes, ils buvaient de la bière. Attendez, si c'était un vieux con comme moi qui disait ça, on allait dire, oui, mais nous, en 10 mai 80, il y avait des affrontements politiques, il y avait les communistes, il y avait la LCR qui arrivait avec
fini,
ses drapeaux.
Ça,
bon. Mais visiblement, les gens étaient contents de se débarrasser de Sarkozy, mais ça n'allait pas au-delà. Ce qui permet de répondre à la question qui était posée, alors là, on a des éléments hein, dans les enquêtes d'opinion qui sont très clairs. Là, ils vont tous dans le même sens. Aussi bien les électeurs de Sarkozy que ceux de Hollande du 6 mai ont voté en majoritairement contre l'autre et non pas par adhésion ni à la personnalité ni au programme du candidat pour lequel ils votaient. J'étais convaincu que Nicolas Sarkozy pouvait battre Dominique Strauss-Kahn.
Ah ouais,
pourquoi ? En fonction de mes voyages en France. C'est-à-dire que la France telle que je la vois est une France par rapport à laquelle Strauss-Kahn aurait eu beaucoup de mal à atterrir. Et malgré son talent. Alors, quand on parle de vision, etc., DSK, là, pour le coup, un côté plus visionnaire, plus une conscience des déséquilibres du monde, de la crise, à mon avis, qui était d'un autre niveau. Mais je pense qu'il était l'incarnation de la mondialisation. Il était l'incarnation de l'establishment. Et qu'en dehors de ses problèmes d'argent et de sexe, il aurait offert à Nicolas Sarkozy des angles d'attaque extraordinaires. Et que le populisme, j'aime pas ce terme parce que moi j'ai plutôt, pour moi, la racine peuple doit être accompagnée de significations positives, mais je pense que Sarkozy aurait pu avoir une argumentation beaucoup plus efficace contre lui. Et ce que je crois, alors ça, en même temps, comme l'a dit Hollande, parce que je lui ai dit ça, je lui ai dit, je ne crois pas, je crois que tu aurais été battu. Et il me dit, Eric, personne ne le saura. Là-dessus, il a raison. C'est-à-dire que je pense qu'au primaire, il aurait été battu. Il aurait été battu parce que je pense que les, on l'a bien vu, hein, les électeurs socialistes, enfin les sympathisants socialistes qui ont voté à primaire, étaient très influencés par les sondages. Hein. Beaucoup ont voté Hollande en se disant, ce qui était une analyse un peu fausse, parce que je pense que Martine Aubry pouvait gagner aussi. Et en tout cas, les sondages, si on les lisait de façon un peu attentive, ne nous disaient pas que Hollande était une assurance de victoire par rapport à Aubry.